Chapitre 3, la délivrance. Il n'avait plus personne. Tous ses amis avaient disparu. Le cher Gottfried, qui lui était venu en aide à des heures difficiles et dont il aurait eu tant besoin en ce moment, était parti depuis des mois, et cette fois pour toujours. Un soir de l'été dernier, une lettre écrite d'une grosse écriture et qui portait l'adresse d'un village lointain avait appris à Louisa que son frère était mort dans une de ces tournées vagabondes que le petit colporteur s'obstinait à continuer malgré sa mauvaise santé. On l'avait enterré là-bas dans le cimetière du pays. La dernière amitié virile et sereine qui eût été capable de soutenir Christophe s'était engloutie dans le gouffre. Il restait seul avec sa mère, vieillie et indifférente à sa pensée, qui ne pouvait que l'aimer, qui ne le comprenait pas. Autour de lui, l'immense plaine allemande, l'océan morne. À chaque effort pour en sortir, il s'enfonçait davantage. La ville ennemie le regardait se noyer. Comme il se débattait, dans un éclair lui apparut au milieu de sa nuit l'image de Hassler, le grand musicien qu'il avait tant aimé quand il était enfant, et dont la gloire maintenant rayonnait sur tout le pays allemand. Il se souvint des promesses que Hassler lui avait faites autrefois, et il se raccrocha aussitôt à cette épave avec une vigueur désespérée. Hassler pouvait le sauver, Hassler devait le sauver. Que lui demandait-il? Ni secours, ni argent, ni aide matérielle. Rien, sinon qu'il le comprît. Hassler avait été persécuté comme lui. Hassler était un homme libre. Il comprendrait un homme libre que la médiocrité allemande poursuivait de ses rancunes et tâchait d'écraser. Il combattait le même combat. Aussitôt qu'il eut cette idée, il l'exécuta. Il prévint sa mère qu'il serait absent 8 jours, et il prit, le soir même, le train pour la grande ville du nord de l'Allemagne, où Hassler était Kapellmeister. Il ne pouvait plus attendre. C'était le dernier effort pour respirer. Hassler était célèbre. Ses ennemis n'avaient pas désarmé. Mais ses amis criaient qu'il était le plus grand musicien, présent, passé et futur. Il était entouré de partisans et de dénigrants également absurdes. Comme il n'était pas d'une forte trempe, il avait été aigri par ceci et amolli par cela. Il mettait toute son énergie à faire ce qui était agréable à ses critiques et pouvait les faire crier. Il était comme un gamin qui joue des niches. Ces niches étaient souvent du goût le plus détestable. Non seulement il employait son talent prodigieux à des excentricités musicales qui faisaient hérisser les cheveux sur la tête des pontifes, mais il manifestait une prédilection taquine pour des textes baroques, pour des sujets bizarres, pour des situations équivoques et scabreuses, en un mot, pour tout ce qui pouvait blesser le bon sens et la décence ordinaire. Il était content quand le bourgeois hurlait, et le bourgeois ne s'en faisait pas faute. L'empereur même, qui se mêlait d'art avec l'insolente présomption des parvenus et des princes, regardait comme un scandale public la renommée de Hassler et ne laissait échapper aucune occasion de manifester à ses œuvres effrontées une indifférence méprisante. Hassler, enragé et enchanté de cette auguste opposition, qui, pour les parties avancées de l'art allemand, était presque devenue une consécration, continuait de plus belle à casser les vitres. À chaque nouvelle sottise, les amis s'extasiaient et criaient au génie. La coterie de Hassler se composait surtout de littérateurs, de peintres et de critiques décadents, qui avaient assurément le mérite de représenter le parti de la révolte contre la réaction, éternellement menaçante dans l'Allemagne du Nord, de l'esprit piétiste et de la morale d'État. Mais leur indépendance s'était exaspérée dans la lutte jusqu'au ridicule, dont ils n'avaient pas conscience. Car si beaucoup d'entre eux ne manquaient point d'un talent assez âpre, ils avaient peu d'intelligence et encore moins de goût. Ils ne pouvaient plus sortir de l'atmosphère factice qu'ils s'étaient fabriquée. Et comme tous les cénacles, ils avaient fini par perdre entièrement le sens de la vie réelle. Ils faisaient loi pour eux-mêmes et pour les centaines de nigauds qui lisaient leurs revues et acceptaient bouche-bée tout ce qu'il leur plaisait d'édicter. Leur adulation avait été funeste à Hassler, en le rendant trop complaisant pour lui. Il acceptait sans examen toutes les idées musicales qui lui passaient par la tête. et il était intimement persuadé que quoi qu'il pût écrire d'inférieur à lui-même, c'était supérieur encore au reste des musiciens. De ce que cette pensée fut malheureusement trop vraie dans la plupart des cas, il ne s'ensuivait pas qu'elle fût très saine et propre à faire naître les grandes œuvres. Hassler avait au fond un parfait mépris pour tous, amis et ennemis. Et ce mépris amer et goguenard s'étendait à lui-même et à toute la vie. Il s'enfonçait d'autant plus dans son scepticisme ironique qu'il avait cru autrefois à une quantité de choses généreuses et naïves. N'ayant pas eu la force de les défendre contre la lente destruction des jours, ni l'hypocrisie de se persuader qu'il croyait à ce qu'il ne croyait plus, il s'acharnait à en persifler le souvenir. Il avait une nature d'Allemand du Sud, indolente et molle, peu faite pour résister à l'excès de la fortune ou de l'infortune, du chaud ou du froid, et qui a besoin, pour conserver son équilibre, d'une température modérée. Il s'était laissé aller, d'une façon insensible, à jouir paresseusement de la vie. Il aimait la bonne chère, les lourdes boissons, les flâneries oisives et les molles pensées. Son art s'en ressentait, quoiqu'il fût trop bien doué pour que les étincelles de génie n'éclatassent pas encore au milieu de sa musique lâchée qui s'abandonnait au goût de la mode. Nul ne sentait mieux que lui sa déchéance. À vrai dire, il était le seul qui la sentit, à de rares moments, que naturellement il évitait. Alors il était misanthrope, absorbé par ses humeurs noires, ses préoccupations égoïstes, ses soucis de santé, indifférent à tout ce qui avait excité autrefois son enthousiasme ou sa haine. Tel était l'homme auprès de qui Jean-Christophe venait chercher un réconfort. Avec quel espoir il arriva, par un matin froid et pluvieux dans la ville où vivait celui qui, à ses yeux, symbolisait en art l'esprit d'indépendance. Il attendait de lui la parole d'amitié et de vaillance dont il avait besoin pour continuer l'ingrate et nécessaire bataille que tout véritable artiste doit livrer au monde jusqu'à son dernier souffle, sans désarmer un seul jour. Car, comme l'a dit Schiller, la seule relation avec le public dont on ne se repente jamais, c'est la guerre. Christophe était si impatient qu'il prit à peine le temps de déposer son sac dans le premier hôtel venu, près de la gare, avant de courir au théâtre pour s'informer de l'adresse de Hassler. Hassler habitait assez loin du centre, dans un faubourg de la ville. Christophe prit un tram électrique en mordant à belles dents un petit pain. Son cœur battait en approchant du but. Le quartier où Hassler avait élu domicile était bâti dans cette étrange architecture nouvelle où la jeune Allemagne déverse une barbarie érudite qui s'épuise en laborieux efforts pour avoir du génie. Au milieu de la ville banale, aux rues droites et sans caractère, s'élevaient brusquement des hypogées d'Égypte, des chalets norvégiens, des cloîtres, des bastions, des pavillons d'exposition universelle, des maisons ventrues, cul-de-jatte, enfoncées dans la terre, avec une face inerte, un œil unique, énorme, des grilles de cachot, des portes écrasées de sous-marins, des cerceaux de fer, des cryptogrammes d'or dans les barreaux des fenêtres grillées, des monstres vomissants au-dessus de la porte d'entrée, des carreaux de faïence bleus plaqués par-ci par-là, partout où on ne les attendait pas, des mosaïques bariolées représentant Adam et Ève, des toits couverts en tuiles de couleurs disparates, des maisons châteaux forts au dernier étage crénelés, avec des animaux difformes sur le faîte, pas de fenêtre d'un côté, puis tout d'un coup une suite de trous béants, carrés, rectangulaires, des sortes de blessures, de grands pans de murs vides d'où surgissait soudain, étayé sur des cariatides nimbelungesques, un balcon massif à une seule fenêtre. Perçant sa rampe de pierre, émergeaient deux têtes pointues, de vieillards barbus et chevelus, des hommes poissons de Bechlin. Sur le fronton d'une de ces prisons, une maison pharaonesque à un étage bas, avec deux colosses nus à l'entrée, l'architecte avait écrit que l'artiste montre son univers qui jamais ne fut et jamais ne sera. Seine Welt zeige der Künstler, die niemals war, noch jemals sein wird. Christophe, uniquement absorbé par l'idée de Hassler, regardait avec des yeux ahuris et n'essayait point de comprendre. Il arriva à la maison qu'il cherchait, une des plus simples, en style carolingien. À l'intérieur, un luxe cossu et banal. dans l'escalier une atmosphère lourde de calorifères surchauffés, un ascenseur étroit dont Christophe ne profita point pour avoir le temps de se préparer à sa visite en montant les 4 étages à petits pas, les jambes fléchissantes, le cœur tremblant d'émotion. Durant ce court trajet, son ancienne entrevue avec Hassler, son enthousiasme d'enfant, l'image de grand-père, lui revinrent à l'esprit comme si c'était hier. Il était près de 11 heures quand il sonna à la porte. Il fut reçu par une soubrette délurée, aux façons de serva padrona, qui le dévisagea avec impertinence, et commença par déclarer que monsieur ne pouvait pas recevoir parce que monsieur était fatigué. Puis le naïf désappointement qui se peignit sur la figure de Christophe l'amusa sans doute, car, après avoir terminé l'examen indiscret qu'elle faisait de toute sa personne, elle s'adoucit brusquement, fit entrer Christophe dans le cabinet de Hassler et dit qu'elle allait faire en sorte que monsieur le reçût. Là-dessus, elle lui décocha une petite œillade et ferma la porte. Il y avait au mur quelques peintures impressionnistes et des gravures galantes du 18e siècle français, car Hassler prétendait se connaître à tous les arts, et il associait dans son goût Manet et Watteau selon les indications qu'il avait reçues du Cénacle. Le même mélange de styles se montrait dans l'ameublement, où un fort beau bureau Louis XV était encadré de fauteuils Art Nouveau et d'un divan oriental, avec une montagne de coussins multicolores. Les portes étaient ornées de glace, et une bibelotterie japonaise couvrait les étagères et le dessus de la cheminée, où trônait le buste de Hassler. Dans une coupe, sur un guéridon, s'étalait une profusion de photographies de chanteuses, d'admiratrices et d'amis, avec des mots d'esprit et des exclamations enthousiastes. Un désordre incroyable régnait sur le bureau. Le piano était ouvert, de la poussière sur les étagères, des cigares à demi brûlés traînaient dans tous les coins. Christophe entendit, dans la chambre voisine, une voix maussade qui grognait. Le verbe tranchant de la petite bonne lui répliquait. Il était clair que Hassler manifestait peu d'enthousiasme à se montrer. Il était clair aussi que la demoiselle avait mis sous son bonnet que Hassler se montrerait. Et elle ne se gênait pas pour lui répondre avec une extrême familiarité. Sa voix aiguë perçait les murs. Christophe était mal à l'aise d'entendre certaines remarques qu'elle faisait à son maître. Mais celui-ci ne s'en affectait point. Au contraire, on eût dit que ses impertinences l'amusaient. Et tout en continuant de grogner, il gouaillait la fille et prenait plaisir à l'exciter. Enfin, Christophe entendit une porte s'ouvrir, et toujours grognant et goguenardant, Hassler qui venait en traînant les pieds. Il entra. Christophe eut un serrement de cœur. Il le reconnaissait, plût à Dieu qu'il ne l'eût pas reconnu. C'était bien Hassler, et ce n'était plus lui. Il avait toujours son grand front, sans une ride, son visage sans un pli, comme celui d'un enfant. Mais il était chauve, empâté, le teint jaune, l'air endormi, la lèvre inférieure un peu pendante, la bouche ennuyée et boudeuse. Il voûtait les épaules, enfonçait ses 2 mains dans les poches de son veston débraillé et traînait des savates aux pieds. Sa chemise formait un bourrelet au-dessus de sa culotte qu'il n'avait même pas achevé de boutonner. Il regarda Christophe de ses yeux somnolents qui ne s'éclairèrent pas quand le jeune homme eut balbutié son nom. Il fit un salut automatique, sans parler, indiqua de la tête un siège à Christophe et s'affaissa avec un soupir sur le divan dont il empila les coussins autour de lui. Christophe répétait « J'ai déjà eu l'honneur, vous aviez eu la bonté, je suis Christophe Kraft. » Hassler, enfoncé dans le divan, ses longues jambes croisées, ses mains maigres, jointes sur son genou droit, relevé à la hauteur du menton, répliqua « Connais pas ». Christophe, la gorge contractée, entreprit de lui rappeler leur ancienne rencontre. En n'importe quelle circonstance, il lui eût été difficile de parler de ses souvenirs intimes. Ici, ce lui était une torture. Il s'embrouillait dans ses phrases, ne trouvait pas ses mots, disait des choses absurdes qui le faisaient rougir. Hassler le laissait patauger, sans cesser de le fixer de ses yeux vagues et indifférents. Quand Christophe fut arrivé au bout de son récit, Hassler continua un instant de balancer son genou en silence, comme s'il attendait que Christophe continuât. Puis il dit « Oui, cela ne nous rajeunit pas » et s'étira. Après avoir bâillé, il ajouta « Demande pardon, pas dormi, souper au théâtre cette nuit. et bâilla de nouveau. Christophe espérait que Hassler ferait une allusion à ce qu'il venait de lui raconter. Mais Hassler, que toute cette histoire n'avait aucunement intéressé, n'en parla plus, et il n'adressa nulle question à Christophe sur sa vie. Quand il eut fini de bâiller, il lui demanda « Il y a longtemps que vous êtes à Berlin ?»«
Je suis arrivé ce matin, » dit Christophe.
« Ah !» fit Hassler sans s'étonner autrement. « Quel hôtel ?» Sans paraître écouter la réponse, il se souleva paresseusement, atteignit un bouton électrique et sonna. « Permettez, » fit-il. La petite bonne parut avec son air impertinent. « Kitty, » dit-il, « est-ce que tu as la prétention de me faire passer le déjeuner aujourd'hui ?»«
Vous ne pensez pourtant pas, » dit-elle, « que je vais vous apporter votre manger ici, pendant que vous avez quelqu'un ?»«
Pourquoi donc pas ?» fit-il en désignant Christophe d'un clignement d'œil railleur. « Il me nourrit l'esprit. Je vais nourrir le corps. Est-ce que vous n'avez pas honte de faire assister à votre repas, comme une bête dans une ménagerie ?»
Hassler, au lieu de se fâcher, se mit à rire et corrigea « comme une bête en ménage ».
« Apporte toujours, » continua-t-il. « Je mangerai la honte avec. » Elle se retira en haussant les épaules. Christophe, voyant que Hassler ne cherchait toujours pas à s'informer de ce qu'il faisait, tâcha de renouer l'entretien. Il parla de la difficulté de la vie en province, de la médiocrité des gens, de leur étroitesse d'esprit, de l'isolement où on était. Il s'efforçait de l'intéresser à sa détresse morale. Mais Hassler, affalé dans le divan, la tête renversée en arrière sur un coussin et les yeux à demi fermés, le laissait parler, semblant ne pas écouter. Ou bien il soulevait un moment ses paupières et lançait quelques mots d'une ironie froide, une saillie bouffonne sur les gens de province qui coupaient net les tentatives de Christophe pour parler plus intimement. Kitty était revenue avec le plateau du déjeuner, café, beurre, jambon, etc. Elle le déposa, boudeuse, sur le bureau, au milieu des papiers en désordre. Christophe attendit qu'elle fût ressortie pour reprendre son douloureux récit qu'il avait tant de peine à suivre. Hassler avait attiré à lui le plateau. Il se versa le café, y trempa les lèvres. Puis, familier et bonhomme, un peu méprisant, il interrompit Christophe au milieu d'une phrase pour lui offrir « une tasse ?» Christophe refusa. Il s'évertuait à renouer le fil de sa phrase. Mais, de plus en plus démonté, il ne savait plus ce qu'il disait. Il était distrait par le spectacle de Hassler, qui, son assiette sous le menton, se bourrait comme un enfant de tartines beurrées et de tranches de jambon qu'il tenait avec ses doigts. Il réussit pourtant à raconter qu'il composait, qu'il avait fait jouer une ouverture pour la Judith de Hebel. Hassler écoutait distraitement. « Was ? Quoi ? » demanda-t-il. Christophe répéta le titre. « Ach so, so. Ah, bon, bon !» fit Hassler en trempant sa tartine et ses doigts dans sa tasse. Ce fut tout. Christophe, découragé, était sur le point de se lever et de partir. Mais il pensa à ce long voyage fait en vain, et, ramassant son courage, il proposa à Hassler, en balbutiant, de lui jouer quelques-unes de ses œuvres. Au premier mot, Hassler l'arrêta. « Non, non, je n'y connais rien, » dit-il avec son ironie goguenarde et un peu insultante. « Et puis, je n'ai pas le temps. » Christophe en eut les larmes aux yeux. Mais il s'était juré de ne pas sortir de là sans avoir l'avis de Hassler sur ses compositions. Il dit, avec un mélange de confusion et de colère, « Je vous demande pardon, mais vous m'avez promis autrefois de m'entendre. Je suis venu uniquement pour cela, du fond de l'Allemagne. Vous m'entendrez. » Hassler, qui n'était pas habitué à ces façons, regarda le jeune homme gauche, furieux, rougissant, prêt de pleurer. Cela l'amusa. Haussant les épaules avec lassitude, il lui montra le piano du doigt et dit d'un air de résignation comique « Alors, allons-y » Là-dessus, il s'enfonça dans son divan comme un homme qui va faire un somme, bourra les coussins à coups de poing, les disposa sous ses bras étendus, ferma les yeux à demi, les rouvrit un instant pour évaluer les dimensions du rouleau de musique que Christophe avait sorti d'une de ses poches, poussa un petit soupir et se disposa à écouter avec ennui. Christophe, intimidé et mortifié, commença à jouer. Hassler ne tarda pas à rouvrir l'œil et l'oreille, avec l'intérêt professionnel de l'artiste qui est repris, malgré lui, par une belle chose. D'abord, il ne dit rien et resta immobile. Mais ses yeux devinrent moins vagues
et ses lèvres boudeuses remuaient. Puis il se réveilla tout à fait, grognant son étonnement et son assentiment. C'étaient des interjections inarticulées, mais le ton ne laissait aucun doute sur ce qu'il pensait, et Christophe en éprouvait un bien-être inexprimable. Hassler ne songeait plus à calculer le nombre de pages qui étaient jouées et celles qui restaient à jouer. Quand Christophe avait fini un morceau, il disait « Après, après !» Il commençait à faire usage du langage humain. « Bon, cela, bon !» s'exclamait-il. « Fameux ! Effroyablement fameux ! Schrecklich famos !»« Mais que diable » grommelait-il stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'était redressé sur son siège, penchait la tête en avant, se faisait un cornet avec sa main, se parlait à lui-même, riait de contentement et, à certaines curiosités d'harmonie, tirait légèrement la langue, comme pour se lécher les lèvres. Une modulation inattendue eut un tel effet sur lui qu'il se leva brusquement, avec une exclamation, et vint s'asseoir au piano à côté de Christophe. Il n'avait pas l'air de s'apercevoir que Christophe fût là. Il ne s'occupait que de la musique. Et quand le morceau fut fini, il saisit le cahier, se mit à relire la page, puis lut les pages suivantes, continuant de monologuer son admiration et sa surprise, comme s'il eût été seul dans la chambre. « Que le diable » faisait-il. « Où cet animal a-t-il trouvé cela ?» Repoussant Christophe de l'épaule, il joua lui-même certains passages. Il avait au piano de charmants doigts, très doux, caressants et légers. Christophe regarda ses mains fines, longues, bien soignées, d'un aristocratisme un peu maladif, qui ne répondait pas au reste de la personne. Hassler s'arrêtait à certains accords, les répétait en clignant de l'œil et faisant claquer sa langue. Il bourdonnait avec ses lèvres, imitant la sonorité des instruments. Et il continuait d'entremêler à cette musique ses apostrophes, où il y avait à la fois du plaisir et du dépit. Il ne pouvait se défendre d'une certaine irritation, d'une jalousie inavouée, et en même temps, il jouissait avidement. Bien qu'il persistât à se parler à lui seul, comme si Christophe n'existait pas, Christophe, rouge de plaisir, ne pouvait s'empêcher de prendre pour son compte les exclamations de Hassler, et il expliquait ce qu'il avait voulu faire. Hassler sembla d'abord ne faire aucune attention à ce que le jeune homme disait, et poursuivit ses réflexions à voix haute. Puis certains mots de Christophe le frappèrent, et il se tut, les yeux toujours fixés sur le cahier de musique, qu'il feuilletait, en écoutant sans avoir l'air d'écouter. Christophe, de son côté, s'animait peu à peu, et il finit par se confier tout à fait. Il parlait avec une excitation naïve de ses projets et de sa vie. Hassler, silencieux, était repris par son ironie. Il s'était laissé retirer le cahier des doigts. Le coude appuyé sur la tablette du piano et le front dans la main, il regardait Christophe qui lui commentait son œuvre avec une ardeur et un trouble juvénile. Et il souriait amèrement en pensant à ses propres débuts, à ses espoirs, aux espoirs de Christophe et aux déboires qui l'attendaient. Christophe parlait, les yeux baissés, dans la crainte de ne plus savoir ce qu'il avait à dire. Le silence de Hassler l'encourageait. Il sentait que Hassler l'observait, qu'il ne perdait pas une de ses paroles. Il lui semblait avoir brisé la glace qui les séparait, et son cœur rayonnait. Quand il eut fini, il leva la tête avec timidité, avec confiance aussi, et regarda Hassler. Toute sa joie naissante gela d'un coup, comme les pousses trop précoces, quand il vit les yeux mornes et railleurs sans bonté qui le fixaient. Il se tut. Après une pause glaciale, Hassler parla d'une voix sèche. Il avait de nouveau changé. Il affectait une sorte de dureté pour le jeune homme. Il persiflait cruellement ses projets, ses espoirs de succès, comme s'il eût voulu se persifler lui-même, puisqu'il se retrouvait en lui. Il s'acharnait froidement à détruire sa foi dans la vie, sa foi dans l'art, sa foi en soi. Il se donna lui-même en exemple, avec amertume, parlant de ses œuvres d'aujourd'hui d'une façon insultante. « Des cochonneries, dit-il, c'est ce qu'il faut pour ces cochons. Est-ce que vous croyez qu'il y a 10 personnes au monde qui aiment la musique? Est-ce qu'il y en a une seule ?»« Il y a moi, dit Christophe, avec emportement. » Hassler le regarda, haussa les épaules et dit d'une voix lassée, « Vous serez comme les autres, vous ferez comme les autres. » Vous penserez à arriver, à vous amuser, comme les autres, et vous aurez raison. Christophe essaya de protester. Mais Hasler lui coupa la parole et, reprenant son cahier, se mit à critiquer aigrement les œuvres qu'il louait tout à l'heure. Non seulement il relevait avec une dureté blessante les négligences réelles, les incorrections d'écriture, les fautes du goût ou d'expression qui avaient échappé au jeune homme, mais il lui faisait des critiques absurdes, des critiques comme en eût pu faire le plus étroit et le plus arriéré des musiciens, dont lui-même Hasler avait eu toute sa vie à souffrir. Il demandait à quoi tout cela rimait. Il ne critiquait même plus, il niait. On eût dit qu'il s'efforçait d'effacer haineusement l'impression que ses œuvres lui avaient faite en dépit de lui-même. Christophe, consterné, n'essayait pas de répondre. Comment répondre à des absurdités qu'on rougit d'entendre dans la bouche de quelqu'un qu'on estime et qu'on aime? Au reste, Hasler n'écoutait rien. Il restait là, buté, le cahier fermé entre les mains, les yeux sans expression, la bouche amère. À la fin, il dit, comme si de nouveau il avait oublié la présence de Christophe, « Ah, la pire misère, c'est qu'il n'y a pas un homme, pas un qui soit capable de vous comprendre. » Christophe se sentit transpercé d'émotion. Il se retourna brusquement, posa sa main sur la main de Hasler, et le cœur plein d'amour, il répéta, « Il y a moi !» Mais la main de Hasler ne bougea point. Et si quelque chose dans son cœur tressaillit, une seconde, à ce cri juvénile, aucune lueur ne brilla dans ses yeux éteints qui regardèrent Christophe. L'ironie et l'égoïsme prirent le dessus. Il esquissa un mouvement du buste, cérémonieux et comique, pour saluer. « Très honoré, » dit-il. Il pensait, « Je m'en fiche bien. Crois-tu que ce soit pour toi que j'ai perdu ma vie ?» Il se leva, jeta le cahier sur le piano, et de ses longues jambes qui flageolaient, s'en alla reprendre sa place sur le divan. Christophe, qui avait saisi sa pensée et qui en avait senti l'insultante blessure, essayait fièrement de répondre que l'on n'a pas besoin d'être compris de tous. Certaines âmes à elles seules valent un peuple tout entier. Elles pensent pour lui, et ce qu'elles ont pensé, il faudra qu'il le pense. Mais Hasler n'écoutait plus. Il était retombé dans son apathie, causée par l'affaiblissement de la vie qui s'endormait en lui. Christophe, trop sain pour comprendre ce revirement subi, sentait vaguement que la partie était perdue. Mais il ne pouvait s'y résigner, après avoir été si près de la croire gagnée. Il faisait des efforts désespérés pour ranimer l'attention de Hasler. Il avait repris son cahier de musique et cherchait à expliquer la raison des irrégularités que Hasler avait notées. Hasler, enfoncé dans le sofa, gardait un silence morne. Il n'approuvait ni ne contredisait. Il attendait que ce fût fini. Christophe vit qu'il n'avait plus rien à faire ici. Au milieu d'une phrase, il s'arrêta. Il roula son cahier et se leva. Hasler se leva aussi. Christophe, honteux et intimidé, s'excusait en balbutiant. Hasler, s'inclinant légèrement, avec une certaine distinction hautaine et ennuyée, lui tendit la main, froidement, poliment, et l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée, sans un mot pour le retenir ou pour l'inviter à revenir. Christophe se retrouva dans la rue, anéanti. Il allait au hasard. Après avoir suivi machinalement deux ou trois rues, il se trouva à la station du tram qui l'avait amené. Il le reprit sans penser à ce qu'il faisait. Il s'affaissa sur la banquette, les bras, les jambes cassées. Impossible de réfléchir, de rassembler ses idées. Il ne pensait à rien. Il avait peur de regarder en lui. C'était le vide. Ce vide était autour de lui dans cette ville, il ne pouvait plus y respirer. Le brouillard, les maisons massives l'étouffaient. Il n'avait plus qu'une idée, fuir, fuir au plus vite, comme si, en se sauvant de la ville, il devait y laisser l'amère désillusion qu'il y avait trouvée. Il retourna à l'hôtel, il n'était pas midi et demi. Il y avait 2 heures qu'il y était entré. Avec quelle lumière au cœur! Maintenant, tout était nuit. Il ne déjeuna point, il ne monta pas dans sa chambre. À la stupéfaction de l'hôte, il demanda sa note, paya comme s'il avait passé la nuit, et dit qu'il voulait partir. Enfin, lui expliquait-on qu'il n'avait pas à se presser, que le train qu'il voulait reprendre ne partait pas avant plusieurs heures, qu'il ferait mieux d'attendre à l'hôtel. Il voulut aller tout de suite à la gare. Il voulait prendre le premier train, n'importe lequel, ne plus rester 1 heure dans ce pays. Après ce long voyage et ses dépenses pour venir, bien qu'il se fût fait une fête non seulement de voir Hasler, mais de visiter les musées, d'entendre des concerts, de faire des connaissances, il n'avait plus qu'une idée en tête, partir. Il revint à la gare, et ainsi qu'on le lui avait dit, son train ne partait pas avant 3 heures. Encore ce train, qui n'était pas express, car Christophe était forcé de prendre la dernière classe, s'arrêtait-il en route? Christophe aurait eu avantage à monter dans le train suivant, qui partait 2 heures plus tard et qui rejoignait le premier. Mais c'était 2 heures de plus à passer ici, et Christophe ne pouvait le supporter. Il ne voulut même plus sortir de la gare en attendant. Lugubre attente, dans ces salles vastes et vides, tumultueuses et funèbres, où entrent et sortent, toujours affairés, toujours courants, des ombres étrangères, toutes indifférentes, pas une qu'on connaisse, pas un visage ami. Le jour blafard s'éteignait. Les lampes électriques, enveloppées de brouillard, mouchetaient la nuit, semblaient la rendre plus sombre. Christophe, plus oppressé d'heure en heure, attendait avec angoisse le moment de partir. Il allait, 10 fois par heure, revoir les affiches des trains pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé. Comme il les relisait d'un bout à l'autre, une fois de plus, pour passer le temps, un nom de pays le frappa. Il se dit qu'il le connaissait. Après un moment, il se rappela que c'était le pays du vieux Schulz, qui lui avait écrit de si bonnes lettres. L'idée lui vint aussitôt, dans son désarroi, d'aller voir cet ami inconnu. La ville n'était pas sur son chemin direct de retour, mais à 1 ou 2 heures par un chemin de fer local. C'était un voyage de toute une nuit, avec 2 ou 3 changements de train, d'interminables attentes. Christophe ne calcula rien. Sur le champ, il décida d'y aller. Ce lui était un besoin instinctif de se raccrocher à une sympathie. Sans se donner le temps de réfléchir, il rédigea une dépêche et télégraphia à Schulz son arrivée pour le lendemain matin. Il n'avait pas envoyé ce mot qu'il le regrettait déjà. Il se plaisantait amèrement sur ses illusions éternelles. Pourquoi aller au-devant d'un nouveau chagrin? Mais c'était fait maintenant, trop tard pour changer. Ses pensées occupèrent sa dernière heure d'attente. Son train était enfin formé, il y monta le premier, et son enfantillage était tel qu'il ne commença à respirer que lorsque le train s'ébranla et que, par la portière du wagon, il vit derrière lui s'effacer dans le ciel gris, sous les tristes averses, la silhouette de la ville sur laquelle la nuit tombait. Il lui semblait qu'il serait mort s'il avait passé la nuit là. À cette même heure, vers 6 heures du soir, une lettre de Hasler arrivait pour Christophe à son hôtel. La visite de Christophe avait remué bien des choses en lui. Pendant toute l'après-midi, il y avait songé avec amertume et non sans sympathie pour le pauvre garçon qui était venu à lui avec une telle ardeur d'affection et qu'il avait reçu d'une façon glaciale. Il se reprochait son accueil. À vrai dire, ce n'avait été de sa part qu'un de ces accès de bouderie quinteuse dont il était coutumier. Il pensa le réparer en envoyant à Christophe, avec un billet pour l'opéra, un mot qui lui donnait rendez-vous à l'issue de leur représentation. Christophe n'en sut jamais rien. En ne le voyant pas venir, Hasler pensa « Il est fâché, tant pis pour lui ». Il haussa les épaules et n'en chercha pas plus long. Le lendemain, il ne pensait plus à lui. Le lendemain, Christophe était loin de lui, si loin que toute l'éternité n'eût pas suffi à les rapprocher l'un de l'autre. Et tous deux étaient seuls pour jamais. Peter Schulz avait 75 ans. Il était de santé délicate, et l'âge ne l'avait pas épargné. Assez grand, mais voûté, la tête penchée sur la poitrine, il avait les bronches faibles et respirait avec peine. Asthme, catarrhe, bronchite s'acharnaient après lui, et la trace des luttes qu'il lui fallait subir, bien des nuits, assis dans son lit, le corps courbé en avant et trempé de sueur, pour tâcher de faire entrer un souffle d'air dans sa poitrine qui étouffait, était gravé dans les plis douloureux de sa longue figure, maigre et rasée. Le nez était long et un peu gonflé au sommet. Des rides profondes, partant du dessous des yeux, coupaient transversalement les joues creusées par les vides de la mâchoire. L'âge, les infirmités n'avaient pas été les seuls sculpteurs de ce pauvre masque délabré. Les chagrins de la vie y avaient eu part aussi. Et malgré tout, il n'était pas triste. La grande bouche tranquille avait une bonté sereine. mais c'était surtout les yeux qui donnaient à ce visage une douceur touchante. Ils étaient d'un gris clair, limpide et transparent. Il regardait bien en face, avec calme et candeur. Il ne cachait rien de l'âme. On eût pu lire au fond. Sa vie avait été pauvre en événements. Il était seul depuis des années. Sa femme était morte. Elle n'était pas très bonne, pas très intelligente, pas du tout belle, mais il en conservait un souvenir attendri. Il y avait 25 ans qu'il l'avait perdue, et pas un soir depuis, il ne s'était endormi sans un petit entretien mental, triste et tendre, avec elle. Il l'associait à chacune de ses journées. Il n'avait pas eu d'enfant. C'était le grand regret de sa vie. Il avait reporté son besoin d'affection sur ses élèves, auxquels il était attaché comme un père à ses fils. Il avait trouvé peu de retours. Un vieux cœur peut se sentir très près d'un jeune cœur et presque du même âge. Il savait combien sont brèves les années qui l'en séparent. Mais le jeune homme ne s'en doute point. Le vieillard est pour lui un homme d'une autre époque. Au reste, il est absorbé par trop de soucis immédiats, et il détourne instinctivement les yeux du but mélancolique de ses efforts. Le vieux Schultz avait rencontré parfois quelques reconnaissances chez des élèves, touché par l'intérêt vif et frais qu'il prenait à tout ce qu'il leur arrivait d'heureux ou de malheureux. Il venait le voir de temps en temps. Il lui écrivait pour le remercier quand il quittait l'université. Certains lui écrivaient encore une ou deux fois les années suivantes. Puis le vieux Schultz n'entendait plus parler d'eux, sinon par les journaux qui lui faisaient connaître l'avancement de tel ou tel. Et il se réjouissait de leur succès comme si c'était les siens. Il ne leur en voulait pas de leur silence. Il y trouvait mille excuses. Il ne doutait point de leur affection et prêtait aux plus égoïstes les sentiments qu'il avait pour eux. Mais ses livres étaient pour lui le meilleur des refuges. Il n'était point oublieux ni trompeur. Les âmes qu'il chérissait en eux étaient maintenant sorties du flot du temps. Elles étaient immuables, fixées pour l'éternité, dans l'amour qu'elles inspiraient et qu'elles semblaient ressentir, qu'elles rayonnaient à leur tour sur ceux qui les aimaient. Professeur d'esthétique et d'histoire de la musique, il était comme un vieux bois, vibrant de chants d'oiseaux. Certains de ses chants résonnaient très loin. Ils venaient du fond des siècles. Ils n'étaient pas les moins doux et les moins mystérieux. Il en était d'autres qui lui étaient familiers et intimes. C'étaient de chers compagnons. Chacune de leurs phrases lui rappelait des joies et des douleurs de sa vie passée, consciente ou inconsciente. Car sous chacun des jours que la lumière du soleil éclaire, d'autres jours se déroulent qu'éclaire une lumière inconnue. Il y en avait, enfin, qu'on n'avait jamais entendu encore, et qui disaient des choses qu'on attendait depuis longtemps, dont on avait besoin. Le cœur souffrait pour les recevoir, comme la terre sous la pluie. Ainsi le vieux Schultz écoutait, dans le silence de sa vie solitaire, la forêt pleine d'oiseaux. Et comme le moine de la légende, endormi dans l'extase du chant de l'oiseau magique, les années passaient pour lui, et le soir de la vie était venu. Mais il avait toujours son âme de 20 ans. Il n'était pas seulement riche de musique. Il aimait les poètes, les anciens et les nouveaux. Il avait une prédilection pour ceux de son pays, surtout pour Goethe, mais il aimait aussi ceux des autres pays. Il était instruit et lisait plusieurs langues. Il était d'esprit un contemporain de Herder et des grands Weltbürger, des citoyens du monde de la fin du XVIIIe siècle. Il avait vécu les années d'âpres luttes qui précédèrent et suivirent 70, enveloppés de leurs vastes pensées. Et quoiqu'il adorât l'Allemagne, il n'en était pas glorieux. Il pensait, avec Herder, qu'entre tous les glorieux, le glorieux de sa nationalité est un saut accompli. Et avec Schiller, que c'était un bien pauvre idéal de n'écrire que pour une seule nation. Son esprit était parfois timide, mais son cœur était d'une largeur admirable, et prêt à accueillir avec amour tout ce qui était beau dans le monde. Peut-être était-il trop indulgent pour la médiocrité, mais son instinct n'avait point de doute sur ce qui était le meilleur. Et s'il n'avait pas la force de condamner les faux artistes que l'opinion publique admirait, il avait toujours celle de défendre les artistes originaux et forts que l'opinion publique méconnaissait. Sa bonté l'abusait souvent, il tremblait de commettre une injustice, et quand il n'aimait pas ce que d'autres aimaient, il ne doutait pas que ce ne fût lui qui se trompât. Et il finissait par l'aimer. Il lui était si doux d'aimer. L'amour et l'admiration était encore plus nécessaire à sa fille morale que l'air à sa misérable poitrine. Aussi, quelle reconnaissance il avait pour ceux qui lui en offraient une occasion nouvelle. Christophe ne pouvait se douter de ce que ces leaders avaient été pour lui. Il était bien loin de les avoir sentis lui-même aussi vivement quand il les avait créés. C'est que pour lui, ces chants n'étaient que quelques étincelles jaillies de la forge intérieure. Il en jaillirait bien d'autres. Mais pour le vieux Schultz, c'était tout un monde qui se révélait d'un seul coup, tout un monde à aimer. Sa vie en avait été illuminée. Depuis un an, il avait dû résigner ses fonctions à l'université. Sa santé de plus en plus précaire ne lui permettait plus de professer. Il était malade, et au lit, quand le libraire Wolf lui fit porter, comme il en avait l'habitude, un paquet des dernières nouveautés musicales qu'il avait reçues, et où se trouvaient cette fois les leaders de Christophe. Il était seul, nul parent auprès de lui. Le peu de famille qu'il avait était mort depuis longtemps. Il était livré aux soins d'une vieille bonne, qui abusait de sa faiblesse pour lui imposer tout ce qu'elle voulait. Deux ou trois amis, guère moins âgés que lui, venaient le voir de temps en temps. Mais il n'était pas non plus d'une très bonne santé. Et quand le temps était mauvais, ils se tenaient clos aussi et espaçaient leurs visites. Justement, c'était l'hiver alors. Les rues étaient couvertes d'une neige qui fondait. Schultz n'avait vu personne de tout le jour. Il faisait sombre dans la chambre. Un brouillard jaune était tendu contre les vitres, comme un écran, et murait les regards. La chaleur du poêle était lourde et fatigante. De l'église voisine, un vieux carillon du XVIIe siècle chantait, tous les quarts d'heure, d'une voix boiteuse et horriblement fausse, des bribes de chorale monotone, dont la jovialité paraissait un peu grimaçante quand on n'était pas très gai soi-même. Le vieux Schultz toussait, le dos appuyé contre une pile d'oreillers. Il essayait de relire Montaigne, qu'il aimait, mais cette lecture ne lui faisait pas aujourd'hui autant de plaisir qu'à l'ordinaire. Il avait laissé tomber le livre, il respirait avec peine et rêvait. Le paquet de musique était là, sur son lit. Il n'avait pas le courage de l'ouvrir. Il se sentait le cœur triste. Enfin, il soupira, et après avoir défait très soigneusement la ficelle, il remit ses lunettes et commença de lire les morceaux de musique. Sa pensée était ailleurs, elle revenait à des souvenirs qu'il voulait écarter. Ses yeux tombèrent sur un vieux cantique dont Christophe avait repris les paroles à un naïf et pieux poète du XVIIe siècle en renouvelant leur expression, le « Christliches Wanderlied », chant du voyageur chrétien de Paul Gerhardt. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt, erwarte nur der Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freude. Espère, pauvre âme, espère et sois intrépide. Attends seulement, attends, voici que tu vas voir le soleil de la plus belle joie. Le vieux Schultz connaissait très bien ces candides paroles, mais jamais elle ne lui avait parlé ainsi. Ce n'était plus la tranquille piété qui calme et endort l'âme par sa monotonie. C'était une âme comme la sienne, c'était son âme même, mais plus jeune et plus forte, qui souffrait, qui voulait espérer, qui voulait voir la joie, qui la voyait. Ses mains tremblaient, de grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il continua. « Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. » Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Debout, debout, dis à la douleur et à tes soucis bonne nuit. Laisse partir ce qui trouble le cœur et qui l'attriste. Christophe communiquait à ses pensées une jeune ardeur intrépide dont le rire héroïque rayonnait dans ses derniers vers confiants et naïfs. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente, und führet alles wohl. Ce n'est pas toi qui règne et qui doit tout conduire, c'est Dieu. Dieu est le roi, il mène tout comme il doit. Et quand venait cette strophe de superbe défi qu'il avait avec son insolence de jeune barbare, arrachée tranquillement de sa place primitive dans l'ensemble du poème pour en faire la conclusion de son lied, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er ihm vorgenommen und was er haben will, das muß doch endlich kommen, zu seinem Zweck und Ziel. Et quand bien tous les diables voudraient s'y opposer, sois calme, ne doute pas, Dieu ne reculera point. Ce qu'il a décidé, ce qu'il veut accomplir, cela sera, cela se fera, il viendra à ses fins. Alors c'était un transport d'allégresse, l'ivresse de la bataille, un triomphe d'impérateur romain. Le vieillard tremblait de tout son corps. Il suivait, haletant, l'impétueuse musique, comme un enfant qu'un compagnon entraîne dans sa course en le tenant par la main. Son cœur battait, ses larmes ruisselaient. Il bégayait « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» Il se mit à sangloter et il riait. Il était heureux, il suffoquait. Il fut pris d'une terrible quinte de toux. Salomé, la vieille servante, accourut, et elle crut que le vieux allait y passer. Il continuait de pleurer, de tousser et de répéter « Ah, mon Dieu ! Mon Dieu !» Et dans les courts moments de répit, entre deux accès de toux, il riait d'un petit rire aigu et doux. Salomé pensa qu'il devenait fou. Quand elle finit par comprendre la cause de cette agitation, elle le gronda rudement. « S'il est possible de se mettre dans un état pareil pour une sottise, donnez-moi cela, je l'emporte, vous ne le verrez plus. » Mais le vieux tenait bon, toujours toussant, et il criait à Salomé de le laisser tranquille. Comme elle insistait, il se mit en fureur, il jurait, et il s'étranglait dans ses jurements. Jamais elle ne l'avait vu se fâcher et oser lui tenir tête. Elle en fut ébahie, et elle lâcha prise. Mais elle ne lui ménagea pas les paroles sévères. Elle le traita de vieux fou. Elle dit qu'elle avait cru jusqu'à présent avoir affaire à un homme bien élevé, mais qu'elle voyait maintenant qu'elle s'était trompée, qu'il disait des blasphèmes à faire rougir un charretier, que les yeux lui sortaient de la tête, et que s'ils étaient des pistolets, il l'aurait tué. Elle en avait pour longtemps à continuer cette chanson, s'il ne s'était soulevé furieux sur ses oreillers, et ne lui avait crié « Sortez !» d'un ton si péremptoire qu'elle partit en faisant battre la porte. Elle déclara qu'il pourrait bien l'appeler maintenant, qu'elle ne se dérangerait pas, qu'elle le laisserait claquer tout seul. Alors le silence retomba de nouveau dans la chambre où la nuit s'étendait. De nouveau le carillon égrena dans la paix du soir ses sonneries placides et grotesques. Un peu honteux de sa colère, le vieux Schultz, immobile, étendu sur le dos, attendait, haletant, que le tumulte de son cœur s'apaisât. Il serrait sur sa poitrine les précieux leaders, et il riait comme un enfant. Il passa les journées solitaires qui suivirent dans une sorte d'extase. Il ne pensait plus à son mal, à l'hiver, à la triste lumière, à sa solitude. Tout était lumineux et aimant autour de lui. Près de la mort, il se sentait revivre dans la jeune âme d'un ami inconnu. Il tâchait de se figurer Christophe. Il ne le voyait pas du tout comme il était. Il l'imaginait tel que lui-même eût voulu être, blond, mince, les yeux bleus, parlant d'une voix un peu faible et voilée, doux, timide et tendre. Mais quel qu'il fût, il était toujours prêt à l'idéaliser. Il idéalisait tout ce qui l'entourait, ses élèves, ses voisins, ses amis, sa vieille bonne. Sa douceur affectueuse et son manque de critique, en partie volontaire, pour écarter toute pensée troublante, tissait autour de lui des images sereines et pures comme la sienne. C'était un mensonge de bonté dont il avait besoin pour vivre. Il n'en était pas tout à fait dupe, et souvent, dans son lit, la nuit, il soupirait en songeant à mille petites choses arrivées dans le jour qui contredisaient son idéalisme. Il savait bien que la vieille Salomé se moquait de lui derrière son dos avec les commères du quartier, et qu'elle le volait régulièrement dans ses comptes de chaque semaine. Il savait bien que ses élèves étaient obséquieux tant qu'ils avaient besoin de lui, puis qu'après qu'ils avaient reçu de lui tous les services qu'ils en pouvaient attendre, ils le laissaient de côté. Il savait que ses anciens collègues de l'université l'avaient tout à fait oublié depuis qu'il avait pris sa retraite et que son successeur le pillait dans ses articles sans le nommer ou en le nommant d'une façon perfide pour citer de lui une phrase sans valeur et pour relever ses erreurs. Le procédé est courant dans le monde de la critique. Il savait que son vieil ami Kunz lui avait fait un gros mensonge cet après-midi et qu'il ne reverrait jamais les livres que son autre ami, Popette Schmidt, lui avait empruntés pour quelques jours, ce qui était douloureux pour quelqu'un qui, comme lui, était attaché à ses livres ainsi qu'à des personnes vivantes. Beaucoup d'autres choses tristes, anciennes ou récentes, lui revenaient à l'esprit. Il ne voulait pas y penser. mais elles étaient là quand même. Il les sentait. Leur souvenir le traversait parfois d'une douleur lancinante. « Ah, mon Dieu, mon Dieu !» gémissait-il dans le silence de la nuit. Puis il écartait les fâcheuses pensées, il les niait. Il voulait être confiant, optimiste, croire aux hommes, et il y croyait. Combien de fois ses illusions avaient été brutalement détruites. Mais il en renaissait d'autres, toujours, toujours, il ne pouvait s'en passer. Christophe inconnu devint un foyer lumineux dans sa vie. La première lettre froide et maussade qu'il reçut de lui devait lui faire de la peine, et peut-être lui en fit-elle. Mais il n'en voulut pas convenir, et il en eut une joie d'enfant. Il était si modeste, il demandait si peu aux hommes que le peu qu'il en recevait suffisait à nourrir son besoin de les aimer et de leur être reconnaissant. Voir Christophe était un bonheur qu'il n'eût jamais osé espérer, car il était maintenant trop vieux pour faire les voyages des bords du Rhin, et quant à solliciter sa visite, la pensée ne lui en venait même pas. La dépêche de Christophe lui arriva, le soir, au moment où il se mettait à table. Il ne comprit pas d'abord. La signature lui semblait inconnue, il pensa qu'on s'était trompé, que la dépêche n'était pas pour lui. Il la relut trois fois. Dans son trouble, ses lunettes ne voulaient pas tenir, la lampe éclairait mal, les lettres dansaient devant ses yeux. Quand il eut compris, il fut si bouleversé qu'il oublia de dîner. Salomé eut beau crier après lui, impossible d'avaler un morceau. Il jeta sa serviette sur la table, sans la plier, comme il ne manquait jamais de faire. Il se leva en trébuchant, alla chercher son chapeau et sa canne, et sortit. La première pensée du bon Schultz, en recevant un tel bonheur, avait été de le partager avec d'autres, et d'avertir ses amis de l'arrivée de Christophe. Il avait deux amis, comme lui mélomane, à qui il avait réussi à communiquer son enthousiasme pour Christophe, le juge Samuel Kuntz et le dentiste Oscar Popetschmidt, qui était un chanteur excellent. Les trois vieux camarades avaient souvent parlé de Christophe ensemble, et ils avaient joué toute la musique de lui qu'ils avaient pu trouver. Popetschmidt chantait, Schultz accompagnait, et Kuntz écoutait, et ils s'extasiaient ensuite pendant des heures. Combien de fois avait-il dit, quand il faisait de la musique, « Ah, si Kraft était là !» Schultz riait tout seul dans la rue, de la joie qu'il avait et de celle qu'il allait faire. La nuit venait, et Kuntz habitait dans un petit village, à une demi-heure de la ville. Mais le ciel était clair. C'était un soir d'avril très doux, les rossignols chantaient. Le vieux Schultz avait le cœur inondé de bonheur. Il respirait sans oppression, et il avait des jambes de 20 ans. Il marchait allègrement, sans prendre garde aux pierres contre lesquelles il butait dans l'ombre. Il se rangeait gaillardement sur le côté de la route à l'arrivée des voitures, et il échangeait un joyeux salut avec le conducteur, qui le considérait avec étonnement quand la lanterne éclairait en passant le vieillard grimpé sur le talus du chemin. La nuit était complète lorsqu'il arriva à la maison de Kuntz, à l'entrée du village, dans un petit jardin. Il tambourina à sa porte et l'appela à tue-tête. Une fenêtre s'ouvrit, et Kuntz, effaré, parut. Il essayait de voir dans l'obscurité et demanda « Qui est là? Qu'est-ce qu'on me veut ?» Schultz, essoufflé et joyeux, criait « Kraft! Kraft vient demain !» Kuntz n'y comprenait rien, mais il reconnut la voix. « Schultz, comment, à cette heure? Qui a-t-il ? » Schultz répéta « Il vient demain, demain matin !»« Quoi ?» demandait Kuntz ahuri. « Kraft !» cria Schultz. Kuntz resta un moment à méditer le sens de cette parole, puis une exclamation retentissante témoigna qu'il avait compris. « Je descends » cria-t-il. La fenêtre se referma. Il parut sur le perron de l'escalier, une lampe à la main, et descendit dans le jardin. C'était un petit vieux bedonnant, avec une grosse tête grise, une barbe rouge, des taches de rousseur sur le visage et sur les mains. Il venait à petits pas en fumant sa pipe de porcelaine. Cet homme débonnaire et un peu endormi ne s'était jamais fait de grands soucis dans sa vie. La nouvelle que lui apportait Schultz n'en était pas moins capable de le faire sortir de son calme, et il agitait ses bras courts et sa lampe en demandant « Quoi? C'est vrai? Il vient ?»« Demain matin !» répéta Schultz triomphant en agitant la dépêche. Les deux vieux amis allèrent s'asseoir sur un banc sous la tonnelle. Schultz prit la lampe. Kuntz déplia soigneusement la dépêche, lut lentement à mi-voix. Schultz relisait tout haut par-dessus son épaule. Kuntz regarda encore les indications qui encadraient le télégramme, l'heure de l'envoi, l'heure de l'arrivée, le nombre des mots. Puis il rendit le précieux papier à Schultz, qui riait d'aise, le regarda en hochant la tête et répétant « Ah, bien, ah, bien !» Après avoir réfléchi un instant, aspiré et expiré une grosse bouffée de tabac, il posa sa main sur le genou de Schultz et dit « Il faut avertir Popetschmidt. »« J'y allais, » dit Schultz. « Je viens avec toi, » dit Kuntz. Il rentra pour déposer la lampe et revint aussitôt. Les deux vieux s'en allèrent bras dessus, bras dessous. Popetschmidt habitait à l'autre bout du village. Schultz et Kuntz échangeaient des mots distraits en ruminant la nouvelle. Tout à coup, Kuntz s'arrêta et tapa le sol de sa canne.
« Ah, tonnerre » dit-il.
« Il n'est pas ici. » Il se rappelait maintenant que Popetschmidt avait dû partir dans l'après-midi pour une opération dans une ville voisine, où il devait passer la nuit et séjourner un jour ou deux. Schultz était consterné. Kuntz ne l'était pas moins. Ils étaient fiers de Popetschmidt. Ils eussent voulu s'en faire honneur. Ils restaient au milieu de la route, ne sachant que décider. « Comment faire ? Comment faire ?» demandait Kuntz. « Il faut absolument que Kraft entende Popetschmidt, » disait Schultz. Il réfléchit et dit « Il faut lui envoyer une dépêche. » Ils allèrent au télégraphe et composèrent ensemble une dépêche longue et émue à laquelle il était difficile de rien comprendre. Puis ils revinrent. Schultz calculait « Il pourra être encore ici demain matin en prenant le premier train. » Mais Kuntz fit remarquer qu'il était trop tard et que la dépêche ne lui serait remise sans doute que le lendemain. Schultz hocha la tête et il se répétait « Quel malheur !» Ils se séparèrent à la porte de Kuntz, car quelque fût l'amitié de celui-ci pour Schultz, elle n'allait pas jusqu'à lui faire commettre l'imprudence d'accompagner Schultz hors du village, ne fût-ce qu'un bout de chemin qu'il lui eût fallu refaire seul dans la nuit. Il fut convenu que Kuntz viendrait dîner le lendemain chez Schultz. Schultz regarda le ciel avec anxiété, pourvu qu'il fasse beau demain. Et il eut un poids de moins sur le cœur quand Kuntz, qui passait pour se connaître admirablement en météorologie, dit, après avoir gravement examiné le ciel, car il n'avait pas moins que Schultz le souci que Christophe vit leur petit pays en beauté, « Il fera beau demain. »